Radio France Internationale, il est 13h en temps universel, 14h à Paris, c'est l'heure d'un nouveau journal avec Karine Bellichat. Bonjour Karine.
Bonjour Nicolas Brousse, bonjour à tous. À la une, ce nouvel épisode de l'échange otages contre prisonniers entre Israël et le Hamas. Trois Israéliens ont retrouvé la liberté après plus de 15 mois de captivité. 183 détenus palestiniens sont sortis des prisons israéliennes. DeepSeek et son nouveau robot représentent une menace. C'est le constat de plusieurs pays en matière de sécurité et en matière de protection des données. Taïwan l'interdit à ses fonctionnaires. Paris et Dublin demandent des comptes à la start-up chinoise d'intelligence artificielle. Et puis on évoquera le sort des tigres en Inde. Ils peuvent de nouveau rugir de plaisir grâce à un plan de sauvegarde. Ces félins ne sont plus en voie de disparition. Enfin, une bonne nouvelle, Igor Strauss nous expliquera. Une nouvelle fois, une foule s'était réunie sur la place des otages à Tel Aviv. Les Israéliens ont suivi, minute par minute, les libérations ce matin. Après près de 16 mois de captivité, trois otages israéliens ont retrouvé leur famille, libérés après avoir été entourés d'hommes en armes du Hamas, remis à la Croix-Rouge, processus habituel maintenant. Mais pas de scène de chaos comme jeudi dernier. Il s'agit de trois hommes, le franco-israélien Ofer Calderon, Keith Siegel et Yarden Bibas. Israël exige une nouvelle fois des informations sur le sort de l'épouse de Yarden Bibas, ainsi que deux de ses enfants de 2 et 5 ans, dont on est sans nouvelles depuis leur enlèvement le 7 octobre 2023. Côté palestinien maintenant, en contrepartie de ces libérations, 183 détenus ont été relâchés par Israël. La plupart ont été renvoyés à Gaza, l'un expulsé vers l'Égypte et les autres accueillis à Beitouna, en Cisjordanie occupée, à Gaza, comme en Cisjordanie, ils ont été accueillis sous les applaudissements. Sami Bourrelifa.
Amaigris, les joues creusées, le visage marqué, les détenus palestiniens retrouvent la liberté. Fa'er Shritah, porte-parole de la commission des affaires des détenus palestiniens, dénonce des conditions de détention effroyables dans les prisons israéliennes. Ils sont en mauvaise santé, ils ont été battus, humiliés, ils ont subi des actes de torture, surtout durant les derniers jours. Pour les forces d'occupation israéliennes, la libération de ces détenus est un aveu d'échec, car certains d'entre eux étaient condamnés à de longues peines, voire à la perpétuité. Israël affirme que ces détenus ont du sang sur les mains. Certains ont été condamnés par des tribunaux militaires rattachés aux forces d'occupation israéliennes. C'est un simulacre de justice, dénonce Fa'er Shritah, dont l'organisation est liée à l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine. Ceux qui ont vraiment du sang sur les mains, ce sont les soldats des forces d'occupation israéliennes qui bombardent pour détruire, pour tuer ou amputer des enfants à Gaza. La lutte du peuple palestinien est légitime. Nous ne faisons que nous défendre. Nous souhaitons mettre un terme à l'occupation afin d'avoir un pays libre et indépendant. Parmi les 183 Palestiniens libérés ce samedi, 18 avaient été condamnés à la perpétuité, 54 à de longues peines. 111 sont des Gazaouis arrêtés après le 7 octobre mais sans lien avec l'attaque du Hamas. Les Palestiniens les considèrent comme des otages détenus uniquement pour servir à Israël de monnaie d'échange contre la libération des otages israéliens aux mains du Hamas. Sami Bourrelifa, Jérusalem, RFI.
Autre avancée de la trêve entre Israël et le Hamas, le point de passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte a rouvert aujourd'hui. L'Union européenne a déployé une mission d'assistance sur place. Au compte-gouttes, 50 malades palestiniens doivent être évacués dans la journée vers l'Égypte. À Damas, alors que le nouveau pouvoir promet une Syrie inclusive, les minorités craignent toujours d'être la cible de violences. C'est le cas des Alaouites, la communauté dont est issu le président déchu, Bachar al-Assad. L'ONG OSDH rapporte que des hommes armés ont tué au moins 10 personnes dans un village alaouite, dans la région de Hama, à l'ouest du pays. Marc Rubio est à Panama City. Le chef de la diplomatie américaine devrait réitérer sur place les déclarations tonitruantes de son président. Donald Trump a juré de récupérer le canal de Panama, une voie navigable stratégique entre l'Atlantique et le Pacifique, construite certes par les États-Unis, mais transférée au Panama en 99. Les autorités du pays s'opposent à cette rétrocession. Mission difficile donc pour Marco Rubio, accompli pour l'émissaire américain envoyé par le président Donald Trump au Venezuela. Richard Grenell est reparti de Caracas hier soir avec 6 Américains détenus jusqu'à hier au Venezuela. Les relations sont tendues depuis des décennies entre les deux pays. Washington refuse de reconnaître Nicolas Maduro en tant que président légitime après les accusations de fraude massive à la présidentielle. Mais les États-Unis appellent désormais à un nouveau départ. Oriane Verdier.
Au sortir de cette rencontre, Nicolas Maduro a utilisé le même vocabulaire lors d'une allocution télévisée. Selon le président vénézuélien, il s'agit d'un nouveau départ historique entre les deux pays.
Nous sommes parvenus à des accords initiaux sur certaines questions. Au fur et à mesure de leur mise en œuvre, de nouveaux sujets surgiront avec l'espoir de conclure de nouveaux accords pour le bien des deux pays et de l'ensemble de la région. Nous veillerons à ce que ce qui a été discuté soit strictement respecté.
Outre la libération de ces 6 Américains, très peu de détails concrets sont sortis de cette rencontre. La Maison-Blanche précise qu'elle ne représente cependant pas une reconnaissance de la présidence de Nicolas Maduro. Richard Grenell avait des objectifs précis, notamment celui d'obtenir que Caracas accepte le retour inconditionnel des Vénézuéliens expulsés des États-Unis. Donald Trump a annoncé le plus grand programme d'expulsion de l'histoire américaine. 600 000 Vénézuéliens aux États-Unis sont concernés par l'annulation de la prolongation de leur statut de protection temporaire.
En attendant, à Washington, Donald Trump a décidé de passer de la menace aux actes sur un autre dossier, celui des droits de douane. Le président américain doit signer dans quelques heures un décret concernant ses voisins. Les marchandises en provenance du Mexique et du Canada seront taxées à 25%. On ignore encore si une liste de produits sera établie ou si l'ensemble des produits importés seront concernés. La Chine est aussi dans le viseur. Ses droits de douane vont augmenter à 10%. Taïwan a interdit à ses fonctionnaires d'utiliser DeepSeek. Les autorités de l'île invoquent des risques pour la sécurité nationale venant de Pékin. Le dernier modèle de robot conversationnel de la start-up chinoise a aussi semé la panique dans la Silicon Valley et fait dévisser les valeurs de la tech à Wall Street. C'est désormais la protection des données personnelles des utilisateurs qui interrogent. À tel point, Nicolas Feldman, que plusieurs pays, de la Corée du Sud à l'Irlande en passant par la France, réclament des explications à DeepSeek.
L'inquiétude de ces pays porte d'abord sur les données des utilisateurs collectées par DeepSeek. Âge, email, profil, historique des requêtes. Les régulateurs redoutent que toutes ces données, stockées en partie en Chine, puissent ensuite être partagées avec les autorités de Pékin. L'autre crainte, elle concerne la protection même de ces données. Cette semaine, une entreprise américaine spécialisée dans la cybersécurité a signalé une importante fuite. Des milliers de données d'utilisateurs de DeepSeek ont ainsi été accessibles en ligne avant que la start-up chinoise ne règle le problème. De la Corée du Sud à la France, en passant par l'Irlande, plusieurs régulateurs chargés de la protection des données personnelles demandent à l'entreprise chinoise de clarifier ses pratiques. En France, la CNIL, responsable de ces questions, dit mener une analyse de l'IA générative de DeepSeek et annonce vouloir interroger la start-up. L'Italie, elle, n'a pas attendu. Après avoir reçu des réponses jugées totalement insuffisantes, une enquête a été lancée. Rome interdit désormais à DeepSeek de traiter les données des utilisateurs italiens.
Un peu de lumière pour refermer ce journal et une bonne nouvelle en provenance d'Inde. New Delhi a atteint ses objectifs de conservation des tigres, selon une étude parue dans Science le 30 janvier. Bonjour Igor Strauss.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
Ils ont longtemps été menacés d'extinction en raison de la perte de leur habitat, du braconnage et des conflits humains. Les tigres sont à présent en augmentation et ont étendu leur territoire en Inde grâce à un vaste plan de sauvegarde.
Oui, autrefois répandu dans toute l'Asie, les tigres ont été éliminés de plus de 90% de leur aire de répartition historique, faisant chuter drastiquement leur population. Le succès du plan de conservation indien est donc une bouffée d'oxygène, pour les tigres évidemment, et pour la santé des écosystèmes. Ils sont désormais 3600 en Inde, répartis sur 138 000 km², et près de la moitié de ce territoire est également habité par des humains. Or, cette cohabitation homme-animal explique la réussite du programme, selon les auteurs du rapport. L'approche indienne a consisté à préserver certaines terres pour les tigres tout en les laissant cohabiter avec les humains sur d'autres. Mais cette cohabitation entre les populations et les tigres a généralement lieu dans des zones prospères, précise le rapport. La colonisation des tigres est bien plus faible dans les régions pauvres où les communautés vivent encore de viande de brousse. Les auteurs de l'étude précisent également que le retour des félins est essentiel pour la protection de la biodiversité, que sa présence témoigne du bon état de tout un écosystème et qu'elle favorise en bout de chaîne la séquestration du carbone qui est bénéfique pour le climat mondial. Que de bonnes nouvelles.
Du win-win entre l'homme et l'animal, Igor Strauss du service environnement d'RFI. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi.